something is happening in our world. The masses of people are rising up, whether they are in Johannesburg, South Africa, Nairobi, Kenya, Accra, Ghana, New York City, Atlanta, Georgia, Jackson, Mississippi, or Memphis, Tennessee. The cry is always the same. We want to be free.
Martin Luther King, Le silence s'est enfin déchiré. Feuilleton en 5 épisodes de Sophie Lemp. Une réalisation de Michel Sidorov. 5e et dernier épisode.
Je ne sais pas où ils m'ont emmené. Une chambre d'hôpital, sans doute. Je voudrais la douceur de Corétard. Je voudrais le rire de mes 4 enfants. Je voudrais le bruit des vagues. Je voudrais le chant des oiseaux. Je voudrais la chaleur du soleil sur ma peau. Je voudrais la lumière de l'aube et celle du crépuscule.
Le 4 avril 1968, Martin Luther King est à Memphis pour soutenir le mouvement des éboueurs noirs de la ville. Vers 18h, il sort un instant sur le balcon de la chambre qu'il occupe au Lauren Motel. Un coup de feu retentit. Il s'écroule. Il meurt 1 heure plus tard à l'hôpital Saint-Joseph. Il a 39 ans.
À la fin de l'année 1964, Martin avait obtenu le prix Nobel de la paix. Et au début du mois de février 1965, il retournait en prison après avoir participé à la marche pour le droit de vote à Selma, en Alabama.
Dans certains États, tout est fait pour que les Noirs n'aient pas accès aux urnes. Ils sont soumis à un test d'alphabétisation arbitraire. Les bureaux d'inscription sur les listes électorales sont rarement ouverts. Les procédures sont longues. Il manque toujours une pièce au dossier.
À Selma, le shérif, Jim Clark, semait la terreur et faisait passer leur envie de s'inscrire au plus téméraire. Nous voulions que le gouvernement fédéral reprenne la main en instaurant une nouvelle loi.
Quand je retrouve ma liberté quelques jours après mon arrestation, je me rends à Washington pour rencontrer le vice-président et le ministre de la Justice. Ils m'écoutent attentivement, mais ils ne sont pas prêts à agir dans l'immédiat. Même la mort, le 26 février, du jeune militant Jimmie Lee Jackson, assassiné par un membre de la garde de l'Alabama, ne les fait pas changer d'avis.
Pour exprimer notre indignation, nous avions organisé une longue marche qui nous mènerait de Selma à Montgomery. La date avait été maintenue malgré l'interdiction des autorités. Mais des menaces sérieuses planaient sur le cortège. Et j'ai insisté pour que Martin renonce à en prendre la tête. De nouveau épuisé, malade, il a accepté à contre-cœur de rester à Atlanta.
Ce dimanche 7 mars, la manifestation est très violemment réprimée. À la sortie de la ville, sur le pont Edmond Pettus, Jim Clark donne à ses hommes armés et à d'autres, venus en renfort, munis de battes de baseball, l'ordre de charger. Sous les yeux des journalistes et du pays tout entier, des hommes et des femmes, qui marchaient en silence pour la paix et l'égalité, sont grièvement blessés. Je suis à Atlanta, alors que j'aurais dû me trouver à leur côté.
Les jours suivants, beaucoup ont reproché à Martin son absence. Certains allant jusqu'à dire que s'il n'était pas venu, c'était parce qu'il savait. Mais ce jour-là, il était si fatigué. Le soir, il s'est effondré, regrettant amèrement d'avoir cédé à ceux qui lui avaient conseillé de rester en retrait. Ce Bloody Sunday demeurerait pour lui une profonde blessure.
2 jours plus tard, alors qu'une marche a de nouveau été interdite, je trouve un accord avec les autorités, afin que nous puissions tout de même nous rassembler.
Il était entendu que nous irions seulement jusqu'au pont. Quand nous avons fait demi-tour, après nous être longuement recueillis, la foule a protesté. Les gens voulaient continuer à marcher. Une fois encore, Martin a été accusé de faire trop de compromis. Mais le 15 mars, le président Johnson a prononcé devant le Congrès un discours qui prouvait que Martin avait eu raison de lui accorder sa confiance.
So it was last week in Selma, Alabama. There, long-suffering men and women peacefully protested the denial of their rights as Americans. Many were brutally assaulted. One good man, a man of God, was killed. Their cause must be our cause too. Because it's not just Negroes, but really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. And we shall overcome.
Le carnage de Selma a profondément choqué l'opinion. Et le président sait qu'il ne peut plus continuer à tergiverser.
There is no Negro problem. There is no Southern problem. There is no Northern problem. There is only an American problem.
Ces mots sont ceux que j'espérais. Et il les a prononcés.
Le 21 mars, une nouvelle marche a été organisée, avec l'autorisation du gouvernement. Martin et moi étions parmi les 8000 personnes parties ensemble de Selma.
Nous marchons sur la route qui relie Selma à Montgomery, 80 km à pied. Je pense à Gandhi et à sa marche du sel. Pendant 4 jours, des hommes, des femmes et des enfants nous rejoignent et nous sommes 25 000 quand nous arrivons à destination. Au soir de ce 4e jour, nous apprenons qu'une militante blanche vient d'être assassinée par le Ku Klux Klan. De sa vie, elle a payé pour nous tous. Des innocents sont morts à Birmingham pour la loi sur les droits civiques. D'autres à Selma pour celle sur le droit de vote.
Le 6 août 1965, la Voting Rights Bill a été signée, interdisant toute manœuvre visant à empêcher un noir d'exercer son droit de vote et abolissant les tests d'alphabétisation. Mais si nous venions de remporter une nouvelle victoire, nous n'avons pas pu la savourer bien longtemps.
Le 11 août, après une bavure policière, des émeutes ont éclaté à Los Angeles, dans le quartier de Watts. Les violences ont duré 4 jours et ont provoqué la mort de 34 personnes. Il y a eu plus de 900 blessés. À la télévision, on évoquait un climat de guerre civile.
Quand j'arrive sur place, le 17 août, on me déconseille de me rendre dans le quartier où les émeutes ont eu lieu, craignant que ma présence engendre de nouvelles violences. Mais il me faut parler à ceux qui se sont révoltés. En les rencontrant, je comprends que les combats que nous avons menés dans le Sud n'ont pas aidé ceux qui vivent ici. Ici, il n'est pas question de ségrégation ni d'accès aux urnes, mais de désespoir. À Los Angeles, comme dans toutes les grandes villes du Nord, les Noirs sont entassés dans des ghettos. Ils sont les premiers à souffrir du chômage. Sur le papier, ils ont la liberté, ils ont l'égalité, mais la réalité est tout autre.
Cet été-là, Martin a pris conscience que rien n'était acquis et que si nous voulions éviter d'autres violences comme celle de Watts, nous devions tenter d'agir en amont, partout où c'était encore possible. Quelques mois plus tard, il a décidé de s'installer à Chicago et nous y avons lancé une campagne pour le droit au logement.
L'année 1966 commençait à peine. Martin avait trouvé un appartement dans le quartier de Lawndale, à l'ouest de la ville. Il tenait à ce que nous vivions comme tous ceux qu'il allait s'atteler à défendre désormais.
Notre logement est exigu, sale. Quand nos enfants nous rejoignent, je sens très vite combien ces conditions de vie leur pèsent. Ils n'ont jamais connu l'opulence, mais n'ont jamais manqué de rien. En les observant, je comprends l'immense frustration de ceux qui vivent ainsi depuis des années.
Nous avons lancé une campagne de grève des loyers. Les Noirs payaient souvent bien plus cher que les Blancs pour des habitations vétustes. Le loyer de Martin s'élevait à 94 $ pour deux pièces, alors que dans certaines banlieues résidentielles, une famille blanche pouvait accéder à 4 ou 5 pièces pour moins de 80 $.
Quand je tente d'alerter les autorités sur cette situation, leurs portes restent fermées. Pourtant, une loi sur le droit de chacun au logement est en vigueur. Mais personne ne souhaite l'avoir appliquée. Personne ne souhaite voir les Noirs sortir de leur ghetto.
À la grève des loyers s'est ajoutée l'opération Corbeille à pain, dont le slogan était « Si vous respectez mon dollar, vous devez respecter ma personne ». Comme jadis à Birmingham, c'est sur la consommation que nous souhaitions agir.
Pour soutenir la campagne, des marches étaient régulièrement organisées. À Chicago, ce n'était pas à la répression policière que nous devions faire face, mais à la virulence des habitants, qui ne voulaient pas de nous dans leur quartier. L'un d'eux a visé Martin, qui marchait en tête d'une manifestation. Blessé physiquement, il était surtout atteint moralement.
Nous nous battions depuis des mois sans obtenir de véritables résultats. Malgré les émeutes qui, pendant l'été, avaient éclaté à Chicago et dans d'autres villes du Nord, Martin continuait à prêcher la non-violence. Son attitude était sans cesse décriée. On lui reprochait d'avoir déserté les luttes du Sud au profit de combats perdus d'avance.
Dans nos rangs, la division est perceptible jusque dans nos slogans. Ceux qui, comme moi, restent foncièrement attachés à la non-violence continuent à scander « Freedom Now ». Tandis que d'autres, de plus en plus nombreux, revendiquent désormais avec force le Black Power.
Stokely Carmichael, militant étudiant, a été l'un des premiers à employer ces termes dans un contexte tendu. Le 6 juin 1966, James Meredith, premier étudiant noir inscrit à l'Université du Mississippi, avait entamé une marche contre la peur pour encourager les Noirs de son État à aller voter sans crainte. Dès le lendemain, blessé par balle, il était contraint à renoncer.
Très vite, j'ai décidé de poursuivre la marche à sa place. Quand je propose que des Blancs se joignent à nous, je me heurte à de vives réactions, et tandis que nous arrivons dans la ville de Greenwood, sous une chaleur accablante, des voix s'élèvent pour réclamer le Black Power, le pouvoir noir. Je discute longuement avec Stokely Carmichael qui tente de me convaincre qu'un autre temps est venu. Mais sa détermination ne me fait pas douter. Je reste intransigeant, fidèle à mes valeurs, convaincu que l'absence de mixité ne nous mènera pas à la reconnaissance de nos droits.
L'Amérique nous regardait nous déchirer avec délectation. Dans la presse, de nombreux articles nous étaient consacrés. Mais au lieu d'évoquer ce qui nous poussait à descendre dans la rue, et se contentait d'analyser grossièrement ce qui semblait isoler Martin chaque jour davantage.
Martin dormait très peu. Il fumait et buvait plus que de raison. Je voyais la lumière sur son visage, cette lumière que j'aimais tant, s'éteindre peu à peu. Son corps s'alourdissait. Il n'avait que 38 ans, mais en paraissait 10 de plus. Ni l'amour que je lui portais, ni celui que ses enfants lui témoignaient, ne suffisaient à l'apaiser. Nous avons quitté Chicago en février 1967. J'espérais que ce départ, même s'il sonnait comme un échec, lui permettrait de retrouver son énergie.
En ce début d'année 1967, je décide de m'engager contre la guerre du Vietnam. Lorsque des milliers de Noirs ont été insultés, frappés, lynchés, jetés en prison, lorsque des dizaines d'autres ont été assassinés, je me suis toujours battu contre le silence de ceux qui regardaient sans voir. Aujourd'hui, de l'autre côté de l'océan, des enfants meurent sous nos bombes. Des civils sont blessés, mutilés par nos armes toujours plus puissantes. L'Amérique oppose sa force à un peuple qui n'a pas les moyens de se défendre. Des photos sont prises, des images filmées. Nous ne pouvons plus détourner les yeux.
Vient un temps où le silence est trahison. Ce sont les mots que Martin a prononcés le 4 avril 1967 à New York, dans l'église de Riverside, lors de son premier discours contre la guerre. Demandant l'arrêt des bombardements, il a appelé l'Amérique à accomplir une véritable révolution des valeurs.
L'impérialisme, car c'est bien de cela qu'il s'agit au Vietnam, équivaut au racisme. L'Amérique considère que la vie des Vietnamiens vaut moins cher que celle de ses citoyens. comme elle continue à penser que la vie d'un noir vaut moins cher que celle d'un blanc. Là-bas, les noirs sont deux fois plus nombreux à mourir au combat. Il est de mon devoir de condamner l'injustice, quelle que soit sa nature, sur notre sol, comme dans n'importe quelle partie du monde.
For I believe absolutely that justice is indivisible, and injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And I want to make it very clear that I'm going to continue with all of my might, with all of my energy, and with all of my action to oppose that abominable, evil, unjust war in Vietnam.
La presse a immédiatement fustigé l'engagement de Martin. Il était critiqué de toutes parts. Le président Johnson était furieux. Mais cela ne l'a pas fait flancher car il savait que sa position était juste et cohérente. Il connaissait les limites de notre système démocratique. Il savait que bien des informations étaient dissimulées et que le nombre de victimes était sans aucun doute très supérieur à celui annoncé.
Je partage la pensée de ceux qui considèrent que nous menons une guerre de riches provoquant un carnage de pauvres.
Les pauvres étaient les premiers touchés au Vietnam, mais également ici, aux États-Unis. Il était de plus en plus difficile d'obtenir une aide sociale. Les conditions s'étaient considérablement durcies. C'était l'une des conséquences de l'explosion du budget militaire.
Il y a deux Amériques. L'une majoritairement blanche, prospère, et l'autre souvent noire, misérable. La colère que j'ai observée dans les ghettos de Chicago et qui gronde partout dans le pays, il faut la transformer en une force constructive.
Nous voulions lancer une campagne des pauvres, avec une nouvelle marche sur Washington. La date était arrêtée, le 22 avril 1968. Une foule nombreuse rallierait la capitale pour demander un plan fédéral qui améliorerait la vie dans les ghettos.
Militants du Black Power, association de blancs pauvres des Appalaches, mais aussi groupes nationalistes indiens ou latinos. Nombreux sont ceux qui rejoignent notre mouvement et acceptent de participer à cette nouvelle campagne. Des familles noires gagneront Washington dans des carrioles tirées par des mules. Puis, nous bâtirons ensemble sur les rives du fleuve Potomac un village provisoire. Nous voulons une campagne spectaculaire qui marquera les esprits.
L'engagement de Martin dépassait désormais la question raciale. Il voulait être auprès de tous ceux qui souffraient.
Le 1er février 1968, deux éboueurs de Memphis meurent écrasés par une benne, alors qu'ils tentent simplement de se protéger de la pluie. Une grève est lancée, dénonçant les conditions de travail des éboueurs noirs, bien plus difficiles que celles de leurs collègues blancs. Le 18 mars, je me rends dans le Tennessee pour témoigner mon soutien à ces hommes.
15 000 personnes étaient là, emportées par la ferveur de Martin. Quand il a été sollicité pour participer à une marche quelques jours plus tard, il a immédiatement accepté, heureux de se sentir utile.
En fin de cortège, des militants noirs qui brisaient des vitrines ont affronté la police. Il y a eu de nombreux blessés et un mort. C'était la première fois que Martin participait à une manifestation qui dégénérait à cause de certains militants. Il était bouleversé.
Le FBI, qui était au courant du risque de violence, s'est bien sûr empressé de reporter la faute sur Martin, qu'il accusait par ailleurs d'être un agent communiste. Mais Martin a tenu bon et il est revenu à Memphis quelques jours après, au début du mois d'avril.
Je n'étais pas dans la salle lorsque Martin a prononcé son discours la veille de sa mort. Quand je le lis aujourd'hui, chaque mot prend un sens particulier. Martin avait depuis longtemps l'impression que sa mort était imminente. Se doutait-il, quand il a employé ces mots-là, qu'on lui tirerait dessus le lendemain?
Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live.
Peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant.
A long life, longevity has its place.
Car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne.
But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will.
Je ne m'inquiète plus.
And he's allowed me to go up to the mountain.
Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite.
And I've seen
Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux que vous sachiez que notre peuple l'atteindra, la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir.
Voilà les mots que j'ai prononcés hier. Les as-tu entendus ? Peut-être étais-tu quelque part dans la salle ? Non. Tu devais déjà être derrière la fenêtre, guettant mon retour dans la chambre d'hôtel. Je suis arrivé au bout. Te raconter ma vie par bribes, en dessiner pour toi les grandes lignes.
Coretta King apprend la mort de son mari le 4 avril 1968 aux alentours de 19h. Lorsque Robert Kennedy, en campagne à Indianapolis, l'annonce à la foule, un long cri se fait entendre. Les heures qui suivent, une explosion de violence ravage les quartiers noirs du pays, de Washington à Chicago, en passant par Boston ou Baltimore. L'état d'urgence est décrété. Il y a des dizaines de morts et des milliers de blessés. Ralph Abernathy, qui a pris la tête du SCLC, est abasourdi. Le 9 avril, les funérailles de Martin Luther King ont lieu à Atlanta, dans la paroisse d'Ebenezer, celle de son enfance. La foule est telle que la ville, pour la première fois, ouvre ses églises blanches à tous ceux qui veulent se recueillir. Le cercueil, installé sur un chariot tiré par deux mules, parcourt ensuite la ville, suivi par un cortège de plus de 150 000 personnes.
De temps en temps, je pense à ma propre mort, à mes propres funérailles. Je voudrais que quelqu'un dise ce jour-là que Martin Luther King Jr. à essayer d'aimer quelqu'un. Je voudrais que vous puissiez dire que j'ai tenté d'aimer et de servir l'humanité. Oui, si vous voulez dire que j'ai été un tambour-major, dites que j'ai été celui de la justice. Dites que j'ai été celui de la paix.
Once upon this planet Earth lived a man preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day.
C'était Martin Luther King, Le silence s'est enfin déchiré, de Sophie Lemp. Cinquième et dernier épisode. Avec Hassan Timbo, Martin Luther King, Aissatou Thiam, Coretta, Modeste Nzapasara, Ralph Abernathy, Pascal Kamerbeck, la narratrice. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son et mixage, Claude Niort. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Laurélène Planchet. Réalisation, Michel Sidoroff.
With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah.